Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Émile Cizlard. Émile, bonjour.
Bonjour, Baptiste.
Nous sommes ensemble un peu suite à une interview que tu avais pu réaliser avec Olivier de Sepibus, mais cette fois parce que tu présentes une exposition, un concert, enfin ça pourrait avoir plein de noms différents, musique des étoiles et des couleurs, installation et concert, voilà. Très bientôt à la salle Joseph Reynaud, pardon, du mercredi 11 au dimanche 15 avril de cette année. Au cours de cette interview avec Olivier de Sepibus, vous aviez retracé un petit peu ton histoire ouais. artistique, et puis avait été abordé enfin cet art des couleurs. Ouais. Alors on va en reparler un petit peu, simplement pour resituer, puis pour comprendre quelle exposition on va voir. Tu es venu avec pas mal d'éléments, notamment une échelle pour comprendre un petit peu le spectre lumineux et les ondes et tout un tas de choses. Tu m'as fait une grande explication, alors j'ai eu beaucoup de... j'ai encore du mal à comprendre et je pense qu'on va voir si les auditeurs s'en sortent après ça. Ce qui était intéressant d'abord en commençant avec cette échelle, c'est qu'on a un spectre lumineux qu'on connaît tous, hein, grosso modo, ouais. et qu'il y a une grande partie de ce spectre qu'on ne voit pas, qui est dans le noir d'un côté et dans le noir de l'autre.
Voilà. Alors, il y a des ondes à partir des couleurs. Alors, ils sont des ondes qui sont directement accessibles par nos yeux. Et au-delà, on a dans l'infrarouge, on sent ces ondes sur la peau, ça nous fait chaud. Et de l'autre côté, ultraviolet, alors ça fait des brûlures. Alors ça attaque directement les yeux et la peau, etc. Si on est longtemps au soleil, alors on peut avoir le cancer.
Alors ça, c'est les deux couleurs invisibles les plus connues après...
Qui sont aussi directement sensibles, mais douloureusement, plus ou moins...
Alors après, moi j'ai découvert dans la tranche la plus basse de l'échelle les ondes gamma, et puis dans la plus haute, on est dans les ondes électromagnétiques et on va vers la lumière.
Ce sont des ondes électriques. Bon, plus loin, je ne sais pas ce qu'il y a encore, mais probablement des choses à découvrir.
Et alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que étaient classées dans cette échelle les ondes télé, les ondes radio, les ondes des micro-ondes, toutes ces ondes-là qui sont en fait à comprendre dans un spectre lumineux.
Oui, bon, alors les spectres lumineux, c'est une chose qu'on fait et qu'on peut voir directement. Les autres choses, on peut, par la compréhension des ondes électromagnétiques et par la technologie, on peut la visualiser dans les couleurs artificielles, disons. Ça veut dire qu'on utilise le couleur vert pour infrarouge ou même si on regarde avec notre cerveau en couleur, ce sont des couleurs électriques du cerveau qui sont traduites en couleurs visibles pour nos yeux.
Ça aussi,
certainement, vous avez vu sur ordinateur ou dans la télé des choses expliquées par les scientifiques.
À un moment donné, tu expliquais, de toute façon, les couleurs sont inscrites dans notre cerveau par l'éducation, par la génétique, par tout un tas de choses qui font qu'un jaune, on le voit de toute façon jaune, même si en réalité il ne l'est pas vraiment, ou la neige est toujours blanche alors qu'elle passe par un camaïeu de gris, de noir, de tout un tas de choses, et que notre cerveau corrigeait systématiquement.
C'est un peu, on a inscrit quelque part notre comportement envers la nature. Et ça fait un peu part de notre comportement envers le réel qui nous entoure.
Ça a permis de nous coder, quoi.
Et voilà. Si on serait soumis seulement au jeu de l'extérieur, on serait complètement perdu. Et comme ça, quand on a les codes génétiques ou les codes par apprentissage, ça nous fait s'orienter dans le réel.
Alors, partant de donc ce code génétique un peu implanté, tu as fait un autre travail dont vous aviez un petit peu parlé avec Olivier de Sébubus, c'est la création d'un grand échantillonnage, comment dire, nuancier de couleurs, où justement tu mettais en avant ton acuité visuelle, où tu te testais à essayer de trouver d'autres couleurs.
Voilà. Alors, il y a un peintre, Monet, qui était très sensible aux couleurs. Chez lui, on voit les ombres dans les couleurs froides, bleu par exemple, et dans la lumière, les couleurs chaudes, etc. Il a peint des nénuphars, mais il a peint aussi l'architecture. Il y a beaucoup de choses faites. Mais entre autres, il a fait une expérience il a peint la façade des cathédrales de Rouen.
Plusieurs fois.
Et tous les 2 heures, il changeait les tableaux. Mmh. Et plusieurs jours de suite, à chaque heure, il prendrait un autre tableau pour fixer les couleurs à cette heure-là. Alors, ça, entre autres, ça me faisait aussi penser à mes expériences, faire des échantillons, sauf que je testais mon œil à la sensibilité à des différentes bandes colorées. Parce qu'il y a les spectres, on peut grosso modo partager en trois segments. Il y a des ondes courtes, et ça serait des couleurs plutôt bleues. Et des ondes moyennes, ça c'est des ondes vertes. Et les longues, ça serait les couleurs rouges.
Alors ça, c'est les trois couleurs que les gens peuvent connaître, qui sont utilisées dans le cinéma, dans les projecteurs, etc.
Et justement, ces trois sections correspondent à trois différentes sensibilités de notre œil. Dans la rétine, on a trois différents récepteurs. Ça veut dire pour les rouges, verts et bleus. Alors c'est ce que vous voyez... dans l'ordinateur, quand vous faites des couleurs, alors c'est RGB. Ouais. Après, il y a encore d'autres, le noir et le blanc. Newton, quand il a mélangé toutes les couleurs ensemble, ça lui donnait la lumière blanche. Et ça, on a un récepteur qui est sensible seulement sur la lumière. Alors ça veut dire sur la lumière blanche. Et dans la nuit, c'est ce récepteur qui agit. Dans la nuit, on ne voit pas les couleurs, mais on voit du blanc jusqu'à le noir. Passant par les différents gris.
Parce que là, le soleil n'agit plus, par exemple, ou la lumière artificielle ne retraduit pas les couleurs ambiantes.
Voilà, avec l'œil nu, dans la nuit, on voit les astres, les étoiles, en blanc. Mmh. Blanc plus intense ou moins intense, etc.
Ce nuancier a été créé, donc, une espèce d'attente à plusieurs heures de la journée, plusieurs temps, plusieurs années, peut-être, plusieurs saisons.
Moi, j'ai essayé... plutôt en regardant vers le nord, entre 10h et 14h, je faisais mes échantillons. Alors, je n'ai pas eu le soleil direct. Et comme ça, j'ai eu à peu près une lumière assez stable.
Et alors, là, c'était de l'observation de la nature, et c'était quelle nature?
J'ai pris les pigments des différents marchands couleurs, et j'ai testé leurs couleurs par rapport à mon œil. Je faisais des échantillons. Après, je comparais ça avec les palettes des différents peintres, surtout les impressionnistes, et des pointillistes, par exemple. Ils ont utilisé un peu aussi cette palette. Je n'ai pas découvert même des choses. Grâce à des impressionnistes, quand j'ai regardé ce qu'ils ont fait, après, c'était Kandinsky ou Delaunay qui ont poursuivi un peu ces recherches plus ou moins théoriques, mais surtout les tableaux qui sont connus.
Tu viens de citer Kandinsky, et justement, Kandinsky, comme d'autres, se sont dit que la couleur, c'était de la musique, et que donc on pouvait écrire à la fois pour des notes, avec le solfège qu'on connaît, mais aussi créer un solfège de couleurs. Et toi, c'est ce que tu as essayé de refaire.
Oui, ça m'a inspiré, mais déjà dans des horoscopes, etc., à chaque... chaque couleur, on attribuait une note ou vice-versa. Alors, c'était déjà une imagination préexistante au moins à partir du Moyen-Âge.
C'était quel auteur Clever, là non.
Kepler.
Kepler, pardon.
Kepler, il y a un livre qui a écrit Harmonie du monde. Et comme ça, il a aux orbites ou à des planètes attribué des qualités musicales. Les planètes sur les orbites, ils dégagent un son. Et seulement les êtres sensibles peuvent les écouter.
Tu crées un nuancier, mais surtout un grand tableau sur lequel donc les couleurs sont présentes. Là,
ça, c'est une solfège qui présente une harmonie des couleurs spectrales. Avec des carrés colorés, ce tableau-là, et ça c'est le spectre des couleurs du soleil. Ça c'est arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel ou le spectre, il est continu. Et moi, j'ai choisi seulement entre les spectres continus dans des différents trois segments des couleurs symboliques, quelque chose comme une dodécachromie. Comme il y a en musique, il y a dodécaphonie. Ça, c'est un peu semblable. Mon truc dans la théorie est que s'il y a une harmonie dans la musique, il y a aussi une harmonie des couleurs. Et tout le monde n'a rien contre. Mais maintenant, en musique, l'harmonie, elle est assez bien définie. Et comme ça, j'ai essayé bien définir l'harmonie des couleurs à partir des données physiques. Alors, il existe quelque chose comme optique physiologique. D'après ça, j'ai créé mon schéma d'harmonie des couleurs. Mais ça, il faut voir l'exposition pour comprendre.
Voilà. Donc, avec trois données...
Il y a trois données. Il y a la pureté de la couleur, il y a la clarté des couleurs, il y a aussi le lieu spectral de chaque couleur. Ça, c'est quantifié. Et, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon... Mais il y a une chose, ça correspond à des données artistiques, aussi à des données des physiciens contemporains. Naturellement.
Voilà, contemporaines. Et on parle donc d'un code couleur qui n'est pas tout à fait celui qu'on a ancré en tête, hein, où le bleu, finalement, est la couleur la plus chaude et le rouge la plus froide.
C'est encore la tradition, disons, du 19e siècle. Mmh. Bon, mais après, à propos des couleurs chaudes et froides, ça vient surtout dans les couleurs spectrales des étoiles. Alors ça, c'est le dernier tableau que je présente sur l'exposition.
C'est ça, c'est l'observation des étoiles qui a permis aux scientifiques de dire « Mais non, réellement, les couleurs les plus chaudes sont les bleues, puisque les étoiles bleues sont celles qui sont les plus neuves,
mais aussi, les plus jeunes. » Mais aussi les forgerons, quand il met le fer au chaud presque blanche, il met ça dans l'eau, et après il regarde des couleurs passées. Alors ça, justement, c'est à l'inverse qu'on pense.
On passe du bleu au rouge,
ouais, voilà,
pour finir au noir. Voilà. Donc on en est venu à cette exposition. Alors comment peut-on expliquer un petit peu cette carte des étoiles et de quelle manière est-ce que tu joues dessus? Comment elles apparaissent?
Déjà, j'ai mentionné que on voit les étoiles que dans la nuit.
Et on les voit que blanches.
Voilà, on voit que blanches. Parce que la sensibilité n'est pas assez sensible pour voir les couleurs des étoiles. Les bâtonnettes, on dit, des récepteurs dans l'œil qui captent la luminosité de chaque lumière. Et cette luminosité, on voit comme blanc. Elles sont très sensibles parce qu'on peut voir en quelque sorte en noir. Avec les autres récepteurs, on ne peut pas voir dans le noir. On peut voir seulement au soleil, au l'aube. On peut quand
on voit
le soleil
peu.
N'est pas encore là, mais le ciel est déjà bien éclairé par le soleil. Bon, et comment... Alors, maintenant grâce à la recherche astronomique, on a découvert que les étoiles ont leur couleur. Déjà par les télescopes qui peuvent voir déjà très faible lumière et aussi des pellicules spécial pour capter la lumière des étoiles, qui capte aussi ces couleurs-là. Bon, je ne connais pas ces techniques-là, mais on voit les photos des étoiles en couleur déjà.
C'est à partir de données connues que là, cette carte a été réalisée. C'est des constellations qu'on connaît ou est-ce que...
Des constellations, c'est complètement astronomiquement correct.
D'accord.
Bon, et je m'ai permis un peu comme artiste, un peu ajouter des choses. J'ai donné cours à ma imagination et fantaisie. Un peu comme les impressionnistes, quand ils ont vu, ils ont peut-être ajouté un peu trop de couleurs que c'est en réalité, parce que les réalistes ont vu aussi les couleurs au 19e siècle, mais pas comme les impressionnistes.
Et alors, la couleur va être projetée sur cette carte, mais aussi dans tout l'espace de la salle Joël Fréneau.
Ça, avec la couleur, quand je la projette, parce que ce sont des lumières et des spots qui sont différents endroits, sont espacés. Ils ne sont pas dans un point.
Trois, hein, on précise, on rappelle. Neuf, mais trois couleurs. Voilà, c'est ça.
On peut les considérer que ce sont des cônes colorés qui se projettent dans l'espace. Et si le cône...
En fait, tu crées un point de croisement entre les différentes couleurs.
Les cônes se croisent, mais on ne voit pas les couleurs. On voit les couleurs s'il y a un obstacle sur lequel il tombe la lumière en cône.
Voilà. C'est-à-dire que les spots projettent systématiquement sur un obstacle et donc vont projeter du noir, en réalité.
Ils projettent son noir et là où il y a un écran, où sur l'écran tombent toutes les lumières. Mais si tombent toutes les lumières, il n'y a pas de couleur non plus. Si j'ai bien,
ce serait blanc, par exemple.
Oui, voilà, ça va vers le blanc plutôt. Mais ça dépend quelle couleur prévaut. Hein. Et si je veux avoir la couleur, je projette une autre lumière dans l'autre point. Alors j'ai deux couleurs. Et alors chaque couleur projette un ombre. Et
une ombre. Ouais.
Mais dans l'ombre, il y a seulement une couleur interceptée, des couleurs opposées. Comme ça, dans l'ombre du couleur rouge, tombe...
Un petit peu de bleu, par exemple.
Donc, si j'ai la lumière bleue, c'est bleu tombe là-bas. Mais dans le fond sur l'écran, il y aura un mélange de rouge et de bleu. Ça veut dire que c'est un peu magenta.
Pour essayer de comprendre encore, à quel moment est-ce que tu joues de la musique et surtout comment tu la joues?
C'est plutôt comme les mixages dans le studio de lumière ou de son.
C'est une table de mixage.
Oui, une table de mix. Alors il y a des potentiomètres et j'ai deux sortes de claviers parce que j'ai deux tables. Une pour jouer la musique sur les étoiles de couleurs, et l'autre, je joue sur les ombres projetées. Parce que sur les étoiles, il n'y a pas des ombres projetées. Alors s'il y a l'étoile est rouge, cette couleur rouge de l'étoile, elle absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. Le rouge est reflété. L'étoile jaune, elle absorbe la lumière bleue, elle reflète la lumière rouge et vert. Après, je joue avec les variateurs d'intensité de lumière. Et avec les différentes intensités, je crée tout le spectre de lumière, de couleurs reflétées.
Donc le décor, en même temps, est là aussi. Après, on a parlé des spots, on a parlé des écrans, des obstacles. Et le décor lui-même va lui aussi renvoyer et faire varier les couleurs.
Parce que j'ai deux choses où je projette la lumière. C'est les étoiles. Et après, il y a j'appelle ça écran avec des cordes verticales.
Cordes
chromatiques. Et sur les cordes chromatiques, les couleurs sont des couleurs dans l'ombre très colorées. Et parfois même très vifs, même trop vifs. Alors si on comprend leur truc, on comprendra aussi. Mais moi, j'avais fait des explications sur place.
Alors, voilà, je le répète, donc c'est musique des étoiles, des couleurs. On commence à voir, j'espère, un petit peu de ces affiches d'Andy. Une affiche très noire avec toute la carte des étoiles qui est tracée dessus. Installation et concert donc par Émile Cizelard. à la salle Joseph Reynaud, donc c'est juste à côté de la radio, hein, du mercredi 11 au dimanche 15 avril 2012, ouvert de 14h à 18h, en continu. Et bien sûr, l'entrée est gratuite. Voilà, avec un petit vernissage le 11 avril à 18h. Et c'est proposé par l'association Art et Montagne.
Bon, alors j'invite tous les, les gens qui ont écouté, voir vraiment les choses, parce que si on voit les étoiles en couleur et des bandes, des cordes verticales qui jouent encore avec la musique sonore, alors ça fait du plaisir et fait comprendre un peu, je dirais, le monde contemporain.
Oui, alors là, on est complètement dans l'art contemporain. Et tu as bien fait de rappeler ça. Il y aura quand même un fond musical. Hein.
Probablement la musique de Chopin, parce que ça me sonne le mieux. Et avec ces cordes-là, et sur l'étoile, j'utilise comme fond, qui d'ailleurs va guider mes couleurs, la musique d'Alexander Scriabine. C'est un musicien russe. C'est quelque part un début de la musique moderne russe. Et lui, il a fait une symphonie, ça s'appelle « Poème du feu ». Et c'est aussi allégorique parce qu'il a Prométhée qui a volé la lumière aux dieux dans les Olympes, quelque part, et donné aux gens. Et moi, je l'utilise avec prédilection parce que ce même Scriabine, il a fait aussi une partition de couleurs de cette symphonie.
Partition de couleurs qui est pas ou très peu jouée.
Voilà, parce qu'il n'a pas laissé des consignes comment jouer. Parce que ce sont des notes comme sont utilisées dans la musique. Alors on ne sait pas comment.
Qu'il a mis sur une portée, etc.
Et, voilà.
Et donc il n'y a pas de notion de temps, de rapidité, voilà. On ne sait pas quelle est la blanche, la noire.
Il y a certains mots, comme on dit, allegro, etc., ou ça, un peu fumé. Mais ça me très psychologique. On peut interpréter assez librement.
Et tu as essayé de la jouer déjà, celle-là?
Non. Ma musique de couleurs, en principe, c'est musique pour les yeux. À la limite, on peut la regarder en silence.
Oui.
Mais quand j'ai appris par Kandinsky et par Scriabine qu'on peut avoir des confusions avec les sons et la couleur, on peut attribuer à chaque couleur un son, à chaque son une couleur. Et il y a un phénomène dans la psychologie, et surtout maintenant moderne, neuropsychologie, c'est la synesthésie, la confusion entre les différents sens. On sent avec le nez la couleur, etc.
Oui, on associe le goût avec une couleur, la musique avec une couleur,
part,
ou l'inverse.
Dans notre cerveau, ça se mélange avec dans notre cerveau et fait une avec la réalité qu'on conçoit. Mmh. Mmh.
Et on entend bien le jaune claquer en nous lorsqu'on le voit. Voilà. Émile, merci.
Bon, je merci aussi. Je serais ravi de voir beaucoup de monde.
Oui, et puis pour ces explications, je peux dire que tu es riche en explications, il n'y a pas de problème. Il faut prendre ce temps-là pour essayer de comprendre quelque chose qui, en fait, nous échappe un peu. Et pour revenir à ce qu'on avait dit en introduction...
Qui est notre quotidien, finalement.
Voilà, qui est notre quotidien et qui est presque trop codé, finalement, pour capter le travail que tu es en train de faire. Enfin, en tout cas pour moi. Mais c'est une belle ouverture. Merci.
Bon, merci bien.
Je propose justement que nous nous quittions avec un extrait de Prométhée ou le poème du feu de Scriabine. À bientôt sur RDY.